Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, du son et du sens, avec des brebis, du bocage et une usine chimique.
En direct depuis le studio 511, une émission réalisée sans émissions toxiques par Jérôme Chellus, assisté de Lucille Valérie avec Tristan Gratalon à la technique aujourd'hui.
Quel rapport entre un collectif de riverains d'un quartier de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui se bat pour faire fermer une usine pas si verte que ça, tout près d'une école, et des paysans qui résistent contre la désertification des campagnes venus occuper le ministère de l'Agriculture. Les histoires sont différentes, les colères aussi, mais dans les deux cas, des citoyens mettent les mains dans le cambouis pour faire les choses autrement. Autrement dit, c'est comme un bruit qui court, du blocage à l'usine.
Le mouton, pour nous, c'est le dernier rempart avant le désert. Souvent, hein. Quand il n'y a plus de mouton, il n'y a plus rien. Donc, on a vocation à essayer de développer, réinstaller des jeunes en mouton.
Il y a une activité qui utilise des produits toxiques dans une usine qui tombe en ruine. Il y a un problème. Et personne s'en empare, hein, sinon nous.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
C'est une vieille histoire de celle dont on fait des fables avec beaucoup d'épreuves. L'histoire de ceux qui veulent changer leur présent pour qu'il puisse y avoir d'autres futurs. Et c'est vrai que quand le discours dominant martèle depuis des décennies un même message de soumission, beaucoup de bonne volonté s'épuise dans la lutte contre ce qui est présenté comme inéluctable. Mais il en est qui tiennent le cap face aux vœux contraires et montrent l'exemple. Écoutez ce que le milliardaire François Pinault disait dans un publi reportage de 2009 sur sa success story.
Si vous êtes un bolasson à la tête d'un groupe, vous l'emmenez à la faillite, et puis c'est des chômeurs et des chômeurs. Donc, en défendant vos intérêts, vous défendez bien sûr les intérêts de tout le monde. Alors on me dit, vous êtes dur en affaires. Bien sûr, je suis dur en affaires. On ne peut pas être tendre dans les affaires. On doit être réaliste, et puis voilà, et défendre ses intérêts. Mais c'est pas pour ça qu'on est malhonnête.
Voilà comment avoir la gagne, nous disait François Pinault en 2009, sans être malhonnête. Ce qui est dommage dans la démonstration, c'est que depuis cette même année 2009, son groupe français de luxe Kering, présidé par son fils, aurait soustrait 2 milliards d'euros d'impôts au fisc italien, français et britannique.
D'après l'enquête de Mediapart, sortie cette semaine, l'ardoise montrait même à 2,5 milliards d'euros d'évasion fiscale depuis 2002.
Mais là où M. Pinault n'a peut-être pas tout à fait tort, c'est quand il dit « en défendant vos intérêts, vous défendez les intérêts ». Intérêt de tout le monde. La preuve, Antoine est allé retrouver d'autres empêcheurs de tourner en rond,
mais moins riches et moins puissants que Pinault.
Ouais, c'est des militants de la Confédération Paysanne que tu as suivis dans leurs actions à Paris cette semaine.
Quelques brebis au ministère de l'Agriculture, ça semble logique ? Eh bien non. Le ministre a envoyé les CRS, pas de quartier pour les pratiques pastorales, que la désertification des campagnes continue.
Faire autrement et lutter contre le poids du réel, c'est souvent compliqué, disait-on. Un autre exemple avant d'aller à la campagne, c'est en pleine ville que nous partons avec Charlotte, à Montreuil, pour une autre mobilisation, cette fois de riverains, contre une usine qui fait de plus en plus de bruit.
Après le scandale de l'amiante, après le dieselgate, apprêtez-vous à entendre parler du chrome 6, une substance extrêmement toxique utilisée dans l'industrie pour améliorer la dureté des métaux. Classé cancérogène certain pour l'homme depuis 1990, le chrome 6 a récemment été interdit par l'Union européenne. Mais pour ne pas trop froisser les industriels, des dérogations sont accordées par les services de l'État. Comme pour la SNEM, la Société Nouvelle d'Eugénisation des Métaux à Montreuil. Et tant pis pour les ouvriers qui sont les premiers à souffrir de sa toxicité. S'ils ne veulent pas perdre leur emploi, dans 10 ans ou 20 ans, ils iront rejoindre les quelques 400 000 nouveaux cas de cancer qui se déclarent tous les ans en France. 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Et à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ce sont donc les riverains qui ont donné l'alerte quand un troisième cas de leucémie s'est déclenché chez un enfant du quartier. Alors même que le préfet s'évertue à tenter de rassurer la population, mercredi dernier, une nouvelle mobilisation était organisée pour demander la fermeture de l'usine.
C'est jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, du bocage à l'usine, autrement.
La pollution atmosphérique entraîne des maladies responsables d'une mort sur 10 dans le monde. 48 000 au total en France chaque année.
Cette pollution atmosphérique s'intensifie et inquiète.
Le chrome 6, c'est un dérivé du chrome. C'est le plus dangereux.
C'est pas des petites quantités, hein. C'est des dizaines de tonnes de produits toxiques qui sont à l'intérieur.
Une pollution atmosphérique qui coûte des vies.
Et je comprends pas pourquoi, puisqu'on a le principe de précaution est inscrit dans l'État français, je comprends pas pourquoi il l'applique pas ici.
Et donc de l'argent, estime la Banque mondiale. Un manque à gagner en termes de revenus du travail évalué à 225 milliards de dollars pour 2013, soit 40% de plus qu'il y a 25 ans.
T'as pas entendu comme un bruit ?
Une pollution atmosphérique qui coûte des vies. et donc de l'argent.
Ah bah, bruit qui coule !
T'as pas entendu comme un bruit ?
Guillaume Tin, Charles Perry, Antoine Chao.
Hashtag, comme un bruit.
Mercredi 14 mars, il est 8h30 du matin. On est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et on se rend à la SNEM, la Société Nouvelle d'Eugénisation des Métaux. Une usine qui utilise des produits très toxiques pour traiter des pièces d'acier destinées à l'aéronautique, pour Airbus et Safran. C'est une installation classée pour la protection de l'environnement, ce qui signifie qu'elle est soumise à des normes drastiques, normalement. Sauf qu'aujourd'hui, le quartier où se situe l'usine est très peuplé. Et depuis le mois de juin, quand un enfant de l'école, situé donc à quelques mètres de l'usine, a déclenché une leucémie, les parents d'élèves et les riverains se sont mobilisés pour faire fermer cette usine. Et ce matin, une action usine ouverte, école déserte, est organisée pour maintenir la pression sur les pouvoirs publics.
Des traces de chrome 6, produit cancérigène interdit à toute l'Europe, ont été retrouvées dans les dernières analyses de l'usine SNEM, installée à Montreuil depuis plus de 40 ans.
On arrive devant l'usine.
Mais après avoir fait ses propres analyses, la préfecture avait souhaité rassurer sa population.
Juillet 2017.
Selon elle, il n'existe aucun risque pour les riverains.
Première sommation, nous allons faire usage de la force.
Septembre 2017.
Des parents d'élèves dispersés à coups de gaz lacrymogène, d'autres menottés, d'autres placés en garde à vue mercredi à Montreuil. La manifestation dégénère.
Depuis la rentrée scolaire, les parents d'élèves et les riverains organisent des manifestations pour bloquer l'activité de cette usine vétuste et polluante située à quelques mètres seulement d'une école.
Nous allons faire usage de la force.
Bonjour.
Je cherche Nicolas.
Nicolas, c'est l'homme à lunettes qui est là-bas.
C'est l'homme à lunettes qui est là-bas. Voilà. Merci. Bonjour.
Vous allez bien ? C'est le commissariat de police.
Ah, bonjour.
Bonjour, vous êtes journaliste aussi ? Vous êtes de quel organe de presse ?
Radio France.
Radio France, ok, d'accord.
Bonjour. Bonjour.
Merci.
Merci. Bonjour, la police se présente, d'entrée de jeu.
C'est un brigadier ou quelque chose comme ça, c'est le commissariat de Montreuil. On les connaît bien, malheureusement. On a trop souvent affaire à eux. On a le jugement qui tombe le 3 avril.
C'est un jugement lié à quoi ?
C'est un jugement parce qu'on avait fait une manifestation de blocage de l'usine symbolique le 27 septembre. La police a très très fortement intervenu, causant 6 blessés chez nous, donc quand même une main cassée, un genou cassé, deux doigts cassés, rocher interne de l'oreille cassée. Et ils n'ont pas réussi à attraper ce qu'ils appellent les leaders, et ils en ont pris deux au hasard. Donc il y en a un qui est relaxé, enfin, il y a demande du procureur qui soit relaxé, et l'autre encourt quand même 4 mois de prison avec sursis.
Où vous êtes ?
Moi je suis Nicolas Barraud. Et je suis le président des Buttes à Morel, qui est une association de quartier festive qui organise des événements dans le quartier. Et puis surtout, le riverain le plus proche de l'usine, puisque j'habite juste devant, à 6 mètres de l'usine.
Vous habitez où ?
Dans la Maison Blanche qui est là. Donc juste sous le vent de l'usine, c'est-à-dire que le vent dominant d'ouest en est qu'on connaît bien à Paris passe d'abord sur les toits de l'usine et puis après il passe chez moi. Depuis 12 ans que j'habite là.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Parce que là, on est devant l'usine SNEM. Il y a des graffitis partout sur l'usine. Chrome, caca, toxique.
On est une grosse centaine de riverains, beaucoup de parents d'élèves, puisqu'il faut expliquer aussi que l'école que vous voyez là est à 40 mètres de l'usine. Elle aussi sous le vent, c'est-à-dire que le vent passe sur l'usine, ensuite il passe chez moi, et puis juste derrière, il passe sur l'école, où il y a 500 élèves qui sont dans cette école, donc école primaire. Donc beaucoup, beaucoup de parents suite à un troisième cas de leucémie dans cette portion de rue, là, tout d'un coup, ont eu peur pour leurs enfants, et se sont mobilisés, et ont décidé de vouloir savoir. Simplement, dans un premier temps, de vouloir savoir. Savoir ce qui se passait, savoir si oui ou non c'est dangereux, et être rassuré. Et visiblement, si au bout de 6 mois, il y a toujours autant de mobilisation, c'est que la préfecture qui est en charge du dossier n'a pas su faire son travail.
Parce que là, l'usine, donc c'est une usine en tôle, verte, l'air quand même, même de l'extérieur, assez vétuste quand même.
C'est... Et alors, ce qu'il faut expliquer en plus, c'est que la tôle verte n'est pas là depuis tout le temps. La tôle verte est là depuis une dizaine d'années pour cacher ce qui est encore plus vétuste qui est derrière. C'est-à-dire qu'elle était dans un tel état qu'ils ont fait venir une entreprise qui a bardé l'usine de tôle verte pour cacher l'état des murs à l'intérieur. Donc déjà, quand vous voyez l'état de la tôle verte et qu'on dit que la tôle verte protège ce qui est pourri à l'intérieur, ça donne une idée. Et si vous montiez sur mon toit, vous pourriez voir le toit de l'usine. Donc on voit des trous béants dans le toit avec des plaques qui sont arrachées. Il y a deux jours, il y a une plaque qui s'est arrachée. Alors que cet été, au mois de septembre, quand il y a eu une visite d'inspection de la préfecture, ils ont demandé à ce qu'il y ait réparation du toit. Et donc on est maintenant en mars et le toit n'a toujours pas été réparé, même si on nous dit que tout va bien.
Qu'est-ce qu'on fabrique à l'intérieur de cette usine ?
Alors, on fabrique rien. C'est une usine, on appelle ça une usine de traitement de surface. C'est-à-dire qu'en gros, ils reçoivent des pièces d'avions, civiles et militaires, et des pièces d'armement, qui sont décapées, dégraissées, et puis ensuite, après, resurfacées. C'est-à-dire qu'on met dessus des revêtements ultra aérodynamiques qui permettent de retourner après sur des pièces de réacteurs, des pièces de fuselage, des accroches d'ailes, etc. Donc c'est essentiellement des produits très très corrosifs, puisque forcément on prend une pièce, on la trempe dans un bac et elle ressort, elle est comme neuve. Et ensuite après on applique dessus des produits, ce qu'ils appellent pénétrants. Donc ça c'est les plus dangereux, c'est là-dedans notamment qu'il y a du chrome 6 qui est cancérigène, qui permet de rentrer dans la pièce pour que le vernis ensuite après vienne bien s'accrocher. Donc c'est vraiment toute une batterie de process et de produits qui sont référencés par l'Europe comme étant des produits toxiques. Alors on appelle ça des CMR, cancérigènes, reprotoxiques, mutagènes. C'est-à-dire que ça transforme, ça va jusqu'à transformation de l'ADN.
Au niveau du travail, il y a à peu près 1 million de personnes, 1 million de salariés qui sont exposés de par leur métier à des produits considérés comme cancérogènes. Cancérogène pour le C, mutagène pour le M, et toxique pour la reproduction, pour le R. Un produit cancérogène, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit, ça peut être un produit chimique, qui peut favoriser ou provoquer l'apparition d'un cancer. Ça peut être des poussières. Les agents mutagènes, ce sont des produits qui vont agir sur les chromosomes et qui vont provoquer l'apparition d'anomalies héréditaires ou augmenter leur fréquence. Et les produits toxiques pour la reproduction, ce sont des produits qui vont soit réduire la fertilité chez l'homme et chez la femme, ou alors qui vont entraver le développement du fœtus ou de l'embryon.
Quand on a acheté, on s'est aperçu que toutes les semaines, à peu près, il y avait un camion citerne d'une société Chimirec qui est spécialisée dans la récupération de produits toxiques usagés. Bah, ils venaient les prendre dans la rue. Donc ils mettaient un tuyau qui pompait les cuves et puis ils en faisaient tomber partout par terre. Donc on a alerté les pouvoirs publics pour plus qu'ils fassent ça, quoi. Donc on a une cinquantaine de courriers comme ça qui disent « Oui, vous avez bien fait de nous contacter, on est venu, on a constaté, on a demandé, ils font plus comme ça. » Alors à chaque fois, en effet, ils font plus comme ça. Donc, c'est bien avant, c'est 10 ans avant la leucémie en question, hein, puisque la leucémie est arrivée, c'est elle qui tout d'un coup a dit que là on allait aller plus loin. Mais c'est vrai que les premiers éléments, nous, quand on a acheté la maison, qu'on voyait les camions qui passaient dans la rue, etc., ça, c'était, il n'y avait pas du tout de suspicion qu'il y aurait des maladies et on pensait pas à ça. Nous, on voulait juste savoir ce qu'ils faisaient et qu'ils arrêtent justement de faire tomber des acides par terre, des choses comme ça.
Et c'est pour ça qu'on a financé une étude, n'est-ce pas, tous ensemble, à cette époque-là. Cette étude, il y est formellement dit, n'est-ce pas, textuellement, qu'il n'y a pas de lien entre une leucémie possible et l'usine. Or, c'est grâce à ça que tu as réussi à faire toute cette mobilisation.
Je crois que vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord.
Oui, parce que vous êtes qui ?
Je suis le voisin qui habite ici, le seul voisin qui a une limitrophe avec l'usine.
Et vous ne pensez pas qu'elle est dangereuse, l'usine ?
Je pense que comme toute chose dans une ville, on peut avoir des choses qui sont dangereuses et pouvoir les maîtriser. C'est pour ça qu'il y a les installations classées, qui est un système qui sert à surveiller les usines. Après, on peut toujours tout mettre en doute.
Si...
Ils mettent en doute la sincérité du préfet. On peut aller au tribunal administratif. Voilà.
Vous avez porté plainte ?
On est en train, oui. Ouais. Une étude, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Par exemple, tous les scientifiques nous ont dit quand la préfecture recherche du chrome 6 dans l'air, ils n'en trouveront jamais. Le chrome 6, comme tous les métaux lourds, ça tombe de la cuve et ça tombe au sol. Donc là, il faut prendre des poussières au sol dans l'atelier. Vous n'en trouverez jamais dans l'école. Mais ça n'empêche pas que ça peut polluer l'école par infiltration dans le sol, par ruissellement, par dégazage. C'est comme ce qui s'était passé à Vincennes pour l'usine Kodak. C'est qu'ils faisaient des prélèvements au droit de l'usine Kodak et ils ne trouvaient jamais rien. Il y avait quand même 7 cancers d'enfants à côté de l'usine. Bon, on ne trouvait pas, on faisait des prélèvements dans le sol, on ne trouve pas, donc on finit par dire, bah, il n'y a pas de rapport. Jusqu'à ce que justement des bureaux d'avocats disent, attendez, on va faire des prélèvements de dégazage, c'est-à-dire de remontée de gaz par les caves des habitants. Et là, tout d'un coup, paf, on tombe sur des choses. Donc c'est très compliqué ces histoires de « oui, mais ça a été prouvé, la préfecture a fait ce qu'il fallait, vous êtes des emmerdeurs, vous continuez à nier ». Nous, on n'est jamais qu'un collectif de riverains et de parents d'élèves. Quand on fait intervenir une des grandes pontes de ça, qui est Annie Thébaumoni, qui est la spécialiste de l'amiante, dont le mari était M. Pézra, qui a lancé tous les scandales de l'amiante à Jussieu, qui vient chez nous, qui la première fois voit cette usine en disant bah, « des usines, j'en ai vu beaucoup, mais des comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, il faut absolument que ça s'arrête, c'est un scandale ». Et qu'on voit que des cas comme ça, il y en a partout, des écoles à côté des usines, des dégazages, des cancers, des... Tout d'un coup, on se dit qu'on ce qu'on fait, ça vaut le coup. Et il ne faut pas laisser tomber.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Annie Thébaumoni, vous êtes donc sociologue à l'INSERM. Vous travaillez sur les maladies professionnelles, notamment sur l'amiante. Et vous vous êtes rendue à Montreuil, vous avez vu l'usine. Selon vous, est-ce que cette usine présente un danger ?
Assurément, elle est dangereuse. Selon la réglementation européenne, il ne devrait y avoir aucune émission, que ce soit au niveau aérien ou que ce soit à travers des liquides ou des évacuations, de ces substances vers l'environnement. L'alerte a été donnée déjà depuis pratiquement une dizaine d'années par les riverains. Ce sont des mesures d'urgence parce que ce sont des toxiques mortels. Je ne comprends pas qu'on maintienne des écoles à proximité immédiate tant qu'ils n'ont pas fait faire les travaux qui s'imposent.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur le chrome 6 ? Parce que c'est vraiment la substance qui inquiète le plus les riverains. Il a été interdit par l'Union européenne en septembre et pourtant oui. Le préfet de Seine-Saint-Denis a accordé une dérogation pour que cette usine puisse continuer à l'utiliser.
Le chrome 6, c'est un dérivé du chrome. C'est le plus dangereux. Il est classé comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer depuis très longtemps. Malheureusement, au niveau de l'Union européenne et des États comme la France, on se permet, même pour des substances comme l'amiante, de maintenir des dérogations pour des industries puissantes. Là, c'est exactement le cas, c'est-à-dire que Airbus et Safran sont des industries extrêmement influentes et ont obtenu, ce qui est absolument inadmissible, une dérogation pour que des travailleurs et des riverains, dont des enfants, soient exposés à un cancérogène majeur. Quand on est en présence d'un polluant qui est l'équivalent de l'amiante, on ne prend pas la décision délibérément de le maintenir alors qu'on sait très bien que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il peut encore faire des dégâts chez les gens qui auront été exposés aujourd'hui.
The asthma attacks are coming on again and telling me the danger level of pollution is at level 2. Wheeze in the air. Hotter here and 7 degrees hotter at the poles. The doctor prescribed a month of pills and 2 Ventolin inhalers. Breathe in. Waiting for the day when landmines will be planted instead of flowers in our country. Breathe out. Everything looks better around you when you're talking on a portable phone. It all fits into place. We're just diodes on a global map. Accept your secret number. Accept and use your secret number. And you can step into the future. Subscribe to a contemporary art gallery and buy art about desolation and pain. We empty rooms, empty chairs, empty walls.
Inhalation number 5. Gentlemen for everyone.
Il y a des gens aujourd'hui dans l'usine verte là.
Je sais pas s'ils sont rentrants parce que certains ouvriers sont derrière moi.
Ils sont où?
Ils sont juste là.
Vous êtes là pour
non, pour le rassemblement.
Contre la société.
Non, pas contre la société, pour savoir un peu ce qui se passe.
Ils veulent nous fermer l'usine. Non, c'est pas la peine.
Vous voulez pas?
Non, je vous dis ça comme ça. Ils veulent fermer l'usine et puis c'est tout.
Et vous, vous travaillez dans l'usine?
Oui.
Vous voulez pas que ça ferme?
Bah non, pas du tout. Quel salarié il veut que son usine ferme? Eux, ils sont arrivés après nous ici, c'est des petits bobos là. Et puis voilà.
Hein. Mais les produits qui sont utilisés à l'intérieur, c'est des produits toxiques quand même?
Enfin, toxiques, non. Il y a des centaines de sociétés comme nous en France qui travaillent comme ça. C'est des manipulateurs. Le problème, c'est que il laisse 30 personnes au chômage. Voilà, comme le chômage, il augmente en France.
Parce qu'ils disent qu'il y a des trous dans le toit de l'usine.
Non, chaque fois qu'il y a eu un peu un trou, on a réparé, c'est normal, il y a du vent, il y a des, les tuiles, ils sont bons, hein, les maisons aussi.
La préfecture est au courant de tout ça.
La préfecture est au courant de tout ça, je suis désolé. Bon, merci. Hein.
Vous allez aller travailler là?
Ouais, bah oui. Aussi un peu. Jérémy?
Vous voulez rentrer? Ouais, je veux bien, ouais. Et sur votre porte aussi, il y a des. C'est couvert d'affichettes usine toxique à 7 mètres.
Par exemple, cette petite tôle ondulée là, transparente, je ne sais pas si vous voyez
oui,
le
oui,
bout là,
ouais, ouais.
Ça c'était tout ouvert jusqu'à septembre 2017.
Vous vous appelez comment?
Christine.
Donc vous, vous êtes la compagne ou la femme de Nicolas?
Oui, tout à fait.
Et vous habitez mais vraiment à 7 mètres?
À 7 mètres, oui.
De l'autre côté de l'usine?
Oui.
Et là, donc, on parle quand même d'une usine où il y a des produits toxiques, dont certains ont été interdits par l'Union européenne. Et là, de votre terrasse, on voit des trous dans le toit de l'usine.
Oui, c'est... oui. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait des signalements. Il y a eu des, là, on peut constater qu'il y a des trappes qui sont des trappes de désenfumage qui doivent rester fermées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elles ont été ouvertes par les ouvriers, les salariés, certainement pour aérer leurs pièces de travail. Enfin bon, il y a une activité qui est potentiellement problématique par rapport à l'environnement, qui utilise des produits toxiques dans une usine qui tombe en ruine et dans un environnement dense en habitation, en personnes sensibles. Il y a 4 groupes scolaires, il y a un groupe d'autistes juste au-dessus. Nous, on est une famille de 4 personnes. Il y a un problème et personne s'en empare, hein, sinon nous.
Vous n'êtes pas dit à un moment, bon, bah, si personne ne fait rien, on s'en va, quoi.
Bah, c'est pas une solution de déménager, de mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas à nous déménager.
Mais s'il y a des risques, c'est vous qui allez être malade.
Oui, mais... Oui, c'est vrai, mais après, on peut se poser la question, est-ce que nous, on peut partir? Racheter ailleurs, c'est très cher. Et puis déménager où? En Seine-Saint-Denis, c'est un peu ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites pollués, reconnus pollués, sur Montreuil, Wipelec à Romainville. C'est un problème qui concerne la Seine-Saint-Denis dans sa totalité. Donc déménager où? Il y a une espèce de tolérance vis-à-vis de ces usines-là. Elles sont nombreuses, c'est des petites unités. La SNEM serait peut-être la jurisprudence de beaucoup d'autres établissements.
Si celle-là tombe, ça va enclencher.
Ben, c'est ce qu'on... Ben, on peut imaginer ça, oui. Et c'est pour ça qu'il y a un frein, une résistance quand même très forte des pouvoirs publics.
Je peux monter pour voir?
Oui, oui.
Alors après, c'est pas l'échelle. C'est peut-être une idée là-haut. Je tiens l'échelle.
Ah oui.
Ouais, c'est quoi, c'est pas là.
D'accord. Oui, ça va. On est arrivé là sur le toit de la maison. C'est incroyable là en fait. On voit de l'autre côté du mur vert, elles sont toutes cassées en fait les vitres. Parce que là du coup, effectivement, on voit que la façade verte, ça cache.
C'est un bardage, hein. C'est un bardage qui cache la misère.
C'est ça, et du coup de votre toit, on peut voir la misère qu'il y a derrière. Ah, effectivement, là c'est tout ouvert, le plastique il couvre même pas le trou en fait. Bourse du travail, métro Croix de Chaveau à Montreuil. Oui, bonjour, c'est Charlotte Perry de France Inter.
Oui, montez au deuxième.
Merci. Bonjour.
Bonjour.
D'accord, bonjour.
Bonjour.
Richard Delindé, c'est moi que vous avez dit au téléphone.
Venez. Je peux juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, je suis Richard Delindé et l'animateur de la CGT dans les différentes entreprises de Montreuil, assez diverses, il est vrai.
Alors là, moi, je viens vous voir concernant l'usine La SNEM, autour de laquelle il y a une grande mobilisation des riverains, des parents d'élèves.
Et en effet, il y a aussi une mobilisation des salariés pour la sauvegarde non seulement de leur emploi, mais depuis des années pour que leurs conditions de travail soient améliorées, y compris que la sécurité des installations soit renforcée. Ils ont obtenu beaucoup d'avancées en la matière. Et aujourd'hui, on a une entreprise dont la dangerosité extérieure n'existe pas selon l'ensemble des rapports qui ont été produits.
Il y a quand même des trous hein, dans le toit. Et on voit, il y a des trous, il y a des vitres brisées.
Alors les toits et vitres brisées, heureusement, n'atteignent pas les processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on est sur des conditions sur lesquelles, en effet, on exige des améliorations depuis très longtemps, notamment le toit qui est en mauvais état, un certain nombre d'aspects extérieurs qui sont totalement désécurisants parce que c'est un aspect qui paraît extrêmement délabré. En réalité, l'entreprise fonctionne avec des contrôles extrêmement pointus puisqu'il travaillait et travaille encore pour l'avionique, c'est-à-dire pour des clients qui ne laissent pas la moindre fuite, la moindre erreur de fabrication, sans quoi, évidemment, c'est la sécurité des avions qui serait en cause. En tout cas, la CGT se bat pour que ces fabrications qui sont utiles restent. Il y a eu des démonstrations faites scientifiques par les autorités compétentes que, en effet, il n'y avait pas de crainte à avoir quant à l'activité de la SNEM.
La pollution, c'est tellement bon. La pollution, c'est tellement bon. La pollution, c'est toute ma vie. C'est même pour ça que je suis revenu sur Paris.
Bonjour.
Alors moi, je m'appelle Patrick Dupuis. Je suis secrétaire de l'Union syndicale Montreuil, les syndicats Sud.
Je m'appelle Monsieur Twenty Nasser. Je suis ancien salarié de la SNEM. J'ai travaillé 16 ans et demi. Et subitement, ils m'ont licencié.
Quand ça ?
J'ai été licencié au mois de septembre.
Vous faisiez quoi alors ?
Metteur au bain. Plonger les métaux dans les bains d'acide et les bains d'acide chromique. Il y avait des fuites un peu partout. La station d'épuration a même débordé jusque dans la rue. Ils ont demandé à un salarié d'aller balayer avec de l'eau. Il a pris le tuyau et il a balayé.
Là-dedans, il y avait des produits toxiques ?
Oui, il y avait un peu de tout.
Donc n'importe quel enfant qui joue avec son ballon peut
oui,
avoir...
Oui, c'est possible qu'il peut avoir contact avec du chrome 6. Et là, quand je suis arrivé ici, le jour où on m'a embauché, le chrome 6, on ne m'a pas dit c'est cancérigène, il faut faire attention pour la manipulation, rien. Tu rentres, tu travailles, tu trempes et voilà quoi.
Mais vous aviez des masques, des choses sécurisées pour manipuler ces produits ?
En fait, le jour où je suis arrivé en 2001, j'ai trouvé un metteur au bain ici qui avait combattu pour avoir des masques. Mais auparavant, il n'y avait pas de masques. Il a même, l'ancien salarié a eu ses cloisons nasales qui étaient bousillées, quoi. Ils étaient percés. tous les ouvriers, on ouvrait les trappes parce qu'en été, il faisait très très chaud et on n'arrivait plus à respirer, quoi. On laissait un peu ouvert. Et c'est vrai que ça sentait très très fort. Mais après, quand on nous a mis une note de service, là, on n'a plus touché.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui se passaient qui n'étaient pas normales, selon vous ?
Oui, il y a les fraudes par rapport au ressuage. Et au fait, les pièces, automatiquement, ils passent par un contrôle. CND, contrôle non destructif, ça s'appelle. Moi, depuis 2001, il n'a jamais pratiquement pas été fait, le contrôle. Il est passé directement aux mains.
C'est un contrôle pour vérifier que la pièce se détruise pas.
Conforme.
Qu'il n'y a pas de fissures.
Fissures et voilà quoi.
Et ces contrôles-là, ils n'étaient pas faits ?
Non. En 2014, on a eu un nouveau contrôleur qui ne voulait pas faire ces contrefaçons. Et c'est depuis 2014 qu'ils ont cherché à me liquider quoi.
Est-ce que vous aviez parlé de ça ?
Oui. Parce que ça fait quand même. En 15 ans, on a compté à peu près, ça fait en millions de pièces, quoi, qui n'auraient pas été contrôlées.
Pourquoi ils ne faisaient pas cette opération de contrôle ?
Ça leur coûtait très cher. On n'aura jamais pu sortir le nombre de pièces qu'on sortait avant. Quand ils trichaient, on sortait, je pense, 4 500 pièces par jour. Et lorsque ils ont commencé à travailler sérieusement, que le nouveau contrôleur leur a imposé de passer toutes les pièces au ressuage. On pouvait passer vraiment quand on travaillait normalement et tout, quand ça se passait bien, 1500 pièces.
Donc économiquement, c'était plus intéressant de...
Économiquement, oui.
De ne pas faire le ressuage, quoi.
Oui, voilà. Parce qu'il n'achetait pas le produit. Du produit ressuage, ça coûte beaucoup, quoi.
Airbus sort des pièces à 50, 70, 100 euros, alors que sur la concurrence, si avec une usine normale, elle devrait sortir à 150 ou 200 euros. Donc eux, ça les intéressait. Donc on ne dit pas que les avions vont tomber, mais Airbus est un peu plus que léger dans le contrôle, dans la sous-traitance qu'il emploie pour payer les pièces les moins chères possibles.
C'est des prix cassés, quoi. C'est des soldes. Voilà.
Prix cassés, sécurité cassée.
Oui, voilà, sécurité cassée. Oui. Ah oui.
Dans mon poisson, j'ai trouvé du mercure. Mes amygdales s'agglutinent au charbon. Y a du moisi sur mes égratignures. Tu t'effolies dans l'opinion. Je veux pas vieillir, tout boursouflé avec des trous dans la mémoire. Comme un vieux con, bail épuisé, coincé dans un laboratoire. Je veux pas vieillir entre un mammouth, la voie ferrée et la décharge. Derrière une brume, telle d'autoroute au pied du mur de Berlin-Plage. Dans mon café, j'ai trouvé du café. Les hormones, y avait même du poulet. Je me disais bien qu'il y avait un drôle de goût. Enfin, on s'habitue à tout.
Alors Charlotte, ce sont des accusations graves que porte Monsieur Twenty, mais c'est pas la première fois et il n'a toujours pas été poursuivi.
Non, d'ailleurs, ni Airbus ni la direction de la SNEM ne souhaitent s'exprimer sur le sujet. Et pour suivre l'actualité de la lutte, allez faire un tour sur le site L'Usine Verte animé par les riverains.
Alors pendant que des habitants de la ville veulent repousser les usines, à la campagne, des éleveurs veulent, eux, repousser le désert. Enfin, je dis à la campagne, mais c'est aussi à Paris que tu les as rencontrés, Antoine.
Oui, c'était mercredi aussi. Mercredi dernier, le 14 mars, la Confédération paysanne a mené une action au ministère de l'Agriculture pour demander le maintien des aides de la PAC pour les surfaces pastorales ligneuses, les SPL. Ça semble un peu compliqué, mais c'est pour éviter en quelque sorte que les petites fermes qui mettent en valeur le pâturage dans les zones difficiles disparaissent avec ses bergères et ses bergers. Il y a urgence, puisqu'il ne reste plus que quelques jours d'ici au 31 mars pour que le gouvernement français fasse reconnaître des centaines d'hectares de zones pastorales auprès de l'Union européenne. Il y a urgence aussi si on veut lutter contre la désertification des campagnes, la fermeture des écoles dans les villages, des petites gares et des services publics qui vont avec puisqu'il y a de moins en moins d'habitants. Et justement, depuis 30 ans, la Confédération Paysanne se mobilise contre l'industrialisation à outrance de la culture, les usines à vaches, les serres géantes, les productions céréalières invasives qui détruisent la biodiversité, la nature, les paysans et la vie dans les campagnes qui va avec. Cet été, la Confédération Paysanne a fêté ses 30 ans d'existence et de lutte dans le petit village d'Alou en Charente. À Alou, mais pourquoi donc? Eh bien, on va y faire un tour dans ce petit territoire rural qui résiste à la désertification et innove en matière de foncier. Mais tout d'abord, direction le ministère de l'Agriculture à Paris, plus précisément la DGPE, la Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises, où la Confédération Paysanne demande à être entendue.
Regardez, en plus, ça va faire le bug.
C'est le buzz.
Le bug. Un bug démocratique. Les gens comme
nous qui sont ragués. Ça fait même pas deux heures, quoi.
Ah ouais.
Les périodes noires de la France.
D'accord. Donc là, on est devant le ministère de l'Agriculture.
Ouais, c'est les locaux, notamment, il y a la DGPE. Direction Générale Performance des Entreprises. En gros, ça fait à peu près depuis... plusieurs semaines qu'il y a la conf alerte le ministère sur ce dossier. En fait, il y a une date échéance qui est notamment le 31 mars, qui est une possibilité qu'a le gouvernement, via ce qu'on appelle le règlement omnibus, de régler une partie du problème.
Ouais. Et donc, c'est une question d'aide bien spécifique de la PAC, hein, c'est ça? Donc là, ils occupent là, le ministère,
heures.
Cette antenne du ministère depuis 17 heures.
Ouais. Ouais. Avec des brebis à l'intérieur. Une dizaine de brebis et ils sont 70 à peu près.
Vous êtes paysan?
Bien sûr que je suis paysan,
ouais.
Monsieur.
Ouais. Alors racontez-moi ce qui se passe alors.
Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on veut la désertification de l'intérieur et la désertification des terres.
D'accord, voilà. Vous vous inquiétez pour la désertification, c'est ça, des campagnes?
Des campagnes, oui, parce que nous voulons des paysans qui travaillent dans un pays. Paysan, le mot est bien approprié. Paysan, c'est une personne qui habite dans le pays. Et nous pensons que nous ne ferons une France prospère qu'avec des circuits directs, qu'avec des paysans qui sont dans les pays et qui travaillent auprès des citoyens et de toutes les personnes. Nous voulons vendre nos produits, vivre de notre travail et vendre nos produits.
Vous êtes producteur où?
Je suis producteur de veau bio sous la mer en Corse. Et je viens de Corse pour manifester ici. Et j'ai fait également du porc corse. J'ai un élevage bio. Et chez nous aussi, le problème va être récurrent. On trouve des personnes qui risquent de perdre énormément. Lui aussi,
ah,
les pays,
ben voilà.
Du Pays Basque, et vous pouvez vous parler.
Alors vous êtes éleveur aussi?
Oui, je suis éleveur, oui.
De brebis,
oui. Oui, je suis éleveur de brebis. Et là, justement, il y a un certain nombre de nos camarades qui sont venus de tous les coins de France, peut-être un peu plus spécifiquement du sud de la France, parce qu'ils sont très concernés par ce sujet. Des surfaces pastorales qui étaient reconnues depuis quelques années et qui désormais ne le seraient plus sur une simple décision du gouvernement actuel.
Du gouvernement actuel ou de la PAC ou de l'Europe?
Non, ici c'est le gouvernement français qui est en jeu. Effectivement, un travail de reconnaissance de ces surfaces avait été obtenu par le gouvernement précédent. Et ça avait valu beaucoup de complications sur le terrain parce que c'est une façon de considérer ces surfaces qui ne sont pas tout à fait des prairies mais qui sont largement valorisées par beaucoup de paysans. Et puis sur le prétexte que les contrôles ont été mal ficelés par la France, c'est la Commission européenne qui effectivement a mis des amendes là-dessus. Ce qui rend la décision aujourd'hui du gouvernement français qui répond, mais du coup, on retire une partie de ces surfaces-là, ce qui n'est pas du tout la question. Ce sont des surfaces qui n'avaient auparavant jamais été considérées et qui l'avaient été depuis 4 ou 5 années C'était une grande victoire et c'était tout à fait légitime puisque c'est un type d'agriculture que la société française dans son ensemble valide, souhaite, une agriculture de paysans, une agriculture paysanne et qui se trouve aussitôt mise en place, qui se trouve négligée, refusée, c'est inadmissible.
Là, on est à l'heure de l'évacuation, visiblement.
Alors là, ça y est, tout le monde est en train d'être évacué. Hein.
Tu passes devant le cordon, là, pour choper...
Tu te présentes ?
Michael Iribarin, éleveur de brebis laitières au Pays Basque.
Alors, vous avez mis une bâche, hein, surface pastorale abandonnée. Alors, ça fait partie, justement, des combats de la Confédération paysanne, qui a fêté ses 30 ans cet été.
Oui, tout à fait.
À Alou, en Charente.
Oui. La conf... Elle est indispensable dans le décor agricole, avec sa défense des paysans comme ici aujourd'hui, également avec sa proposition de politique agricole, qui est une agriculture paysanne, et comme son nom l'indique, qui favorise le pays, le produit, et le paysan qui travaille lui-même, et également le citoyen et le consommateur qui attendent de l'alimentation d'une vraie paysannerie.
Alors, Alou, justement, parce qu'il y a une politique agricole d'Alou particulière, avec des initiatives pour installer des nouveaux paysans, pour limiter l'extension des grandes exploitations, etc. Donc, c'était aussi un choix particulier d'être là-bas.
Oui, c'était tout à fait un choix particulier. Alou, c'est des initiatives au niveau du foncier. C'était aussi précisément une exploitation agricole, une ferme sur laquelle le repreneur n'avait pas de successeur direct. Donc, proposer... à des initiatives diverses de gens qui viendraient soit de l'agriculture, soit de la cité pour s'investir en agriculture. Et puis c'était aussi un maire d'Alou qui était tout à fait conscient du problème du foncier, de la nécessité de préserver les terrains pour l'agriculture et de raisonner les constructions immobilières. Je crois que c'était là un symbole fort pour notre syndicat.
Et bon, on va y aller à Alou.
Et je conduis mon troupeau. Oh oh.
Ça m'a coûté 250 degrés, j'ai l'air d'aller.
Allez.
L'Alouette, bulletin municipal de la commune d'Alou. Compte rendu de la Confédération paysanne fête ses 30 ans.
J'ai une carte là. Voilà.
Ah.
Donc la commune d'Alou, qui est une espèce de patate avec le bourg au milieu. Il y a donc le fleuve Charente qui coule du sud au nord-ouest. Après, on a une route importante qui part vers Ruffec, vers l'ouest, et qui part vers Confolens, vers l'est. Donc moi, Jean-Jacques Catrin, donc j'ai été élu maire aux élections municipales de 2014. Et après, on a 75 villages isolés, qui tous avaient au moins une ferme, voire deux ou trois ou plus. Et donc ces villages, ils existent encore. Il y en a encore la moitié qui ont des bâtiments agricoles, donc où il y a des bêtes. Et puis le reste des villages, c'est des villages habités. Donc beaucoup d'habitats qui existent encore, des résidences secondaires. Les Anglais ont beaucoup acheté. Sur les un peu plus de 300 maisons, il y en a à peu près 20% qui appartiennent à des Anglais, dont certains sont en résidence permanente et d'autres viennent pendant les vacances. Et donc, ces 75 villages, ça fait un maillage de petites routes, de chemins, de haies encore, qui restent beaucoup, mais qui sont menacées aussi, parce que les systèmes agricoles font que les tracteurs sont de plus en plus gros, les outils de plus en plus larges, et donc, il y a un certain nombre de haies qui disparaissent. Les bois sont maintenus, il y a des coupes de bois, puis après ça repousse, hein, c'est l'ordre des choses. Beaucoup de petits ruisseaux, donc ils jettent dans la Charente. Beaucoup de zones humides aussi, alors que qui sont aussi importantes pour l'écosystème, parce que ça évite les inondations d'hiver, ça restitue l'eau l'été pour éviter les sécheresses. Donc là, c'est des choses aussi qu'on essaie de préserver. Et donc, les terres utilisées donc par des agriculteurs éleveurs, donc des clôtures. On reconnaît la production à la clôture, donc si c'est une clôture pour des bovins, c'est deux ou trois barbelés. Si c'est une clôture à moutons, c'est un criage qui arrête les moutons. Quelquefois des élevages même mixtes, qui ont les deux. Voilà un peu notre paysage de Charente-Limousine.
Et nous, ici, on est venu quand même parler de politique agricole d'Alou, hein, parce que vous avez aussi installé, enfin mis en place une politique agricole particulière à Alou.
Tout doucement, on perd des emplois agricoles. Alors, si c'était là, il y a une commune, là, 20 km d'ici, par exemple, qui fabrique des meubles, qui perd 50 emplois,
C'est une catastrophe pour une commune de quoi, 300-400 habitants. Mais l'agriculture, ben, on perd un emploi ici, un emploi là. Si on prend sur une dizaine de communes, on perd peut-être 2 emplois par an, mais ça ne se voit pas. C'est très, à la fois très silencieux, très discret. Donc on a de moins en moins d'actifs. Et puis donc, l'idée, c'est de, voilà, d'y réfléchir et d'essayer d'agir. De s'autoriser à être un peu intrusif dans ce système. Alors, bien sûr, il s'agit de mettre en place, de faciliter l'installation d'agriculteurs qui, après, auront des exploitations viables, qui vont vivre leur travail le plus dignement possible.
Paris, mercredi 14 mars. Suite de l'occupation du ministère de l'Agriculture par les paysans de la Confédération paysanne.
Alors, vous êtes éleveur, justement ?
Je suis éleveur dans le Tarn. Je me suis tapé 9 heures de train pour pouvoir venir, pour défendre mes surfaces pastorales, pour pouvoir essayer de défendre mon élevage familial. J'ai 70 brebis pour l'instant, je vais monter à 180. En vente directe, j'ai un système qui est en bio, qui est respectueux de l'environnement, de la nature, avec un impact très limité sur l'environnement, si ce n'est de l'ouverture, de l'entretien pour limiter les feux, etc. Je vais perdre, maintenant je vais perdre encore quelques milliers d'euros des rares subventions qui nous restaient par la disparition pure et simple d'une tranche, d'un prorata qui nous avait été accordé au prix de lutte. Personnellement, je suis assez peu impacté. J'ai des amis qui vont perdre jusqu'à 30-40 000 euros de primes, ce qui représente des systèmes entiers qui seront détruits.
Tu te présentes ?
Éloi Hervé, agriculteur dans le Tarn et syndicaliste conf.
Et c'est difficile de s'installer pour un jeune paysan aujourd'hui ?
C'est très difficile. Je me suis installé il y a un an. J'ai eu la grande chance de pouvoir m'installer dans un GAEC familial avec mes parents. Je me retrouve, excusez-moi l'expression, mais comme un con, étranglé par les normes, par les règles, par les directives, etc., qui m'empêchent de faire mon métier de paysan, qui est simplement de me contenter de produire en limitant mon impact au plus possible sur l'environnement. Maintenant, aujourd'hui, pour s'installer dans l'agricole, si on n'a pas les reins solides, beaucoup d'argent ou la famille qui est dedans, c'est plus que le parcours du combattant, parce qu'on y risque tout simplement sa santé économique, c'est sûr, et sa santé familiale, et même sa santé psychologique. De nos jours, il y a 300 agriculteurs qui se suicident par an. Maintenant, je ne sais pas si on attend la désertification pure et simple de nos campagnes. La disparition de cette montagne qu'on connaît comme ça, avec ses espaces ouverts, etc. Maintenant, s'il n'y a plus d'aide pour l'élevage, ça ne sert plus à rien.
Tapez sur les paysans, tapez sur leurs frères.
Je n'en peux plus de ce rouleau compresseur dans notre économie, de cette machine de guerre qui écrase toujours et à tout prix, d'un silence beaucoup trop long, complice d'exaction. Je crois que le temps m'est en...
Je vais prendre un carnet, s'il vous plaît.
Un carnet. Ça fait 9,40€, monsieur.
C'est quoi le code postal d'Alou ?
16400. Vous voulez que je vous le marque ?
Ouais, ouais. Et vous êtes d'ici, vous ? Vous êtes née ?
Moi, je suis d'ici. Moi, je suis née à Masmayou, à 3 km du bourg. De toute façon, il faut bien dire aussi qu'on est dans un petit village rural. Hein. On ne peut pas travailler comme en pleine ville. Hein. Mais on sent aussi qu'il y a le... que les gens ont des soucis quand même, hein. C'est vrai, hein. Sinon, non, mais Alou, c'est très bien. On y est bien, il y a 500 et quelques habitants, il y a de plus en plus de moines fermes. Hein.
Et vous travaillez à la poste, alors, depuis longtemps ?
Moi, ça va faire 9 ans que je travaille, 10 ans que je travaille à la poste. Avant, j'étais aux écoles et j'étais avec mon mari, avec une exploitation agricole. J'avais des chèvres et des vaches allaitantes. Puis voilà, mon mari est décédé et puis... Et puis là, l'exploitation, eh bien, écoutez, j'ai mis les terres en fermage. Mais moi, j'ai toujours travaillé à l'extérieur. Mais encore, je trouve qu'on a une belle région, il y a du passage ici.
Ouais, ouais. Voilà. Au revoir, bonne fin de journée. À
vous. C'est à même ce que c'est à même, mais c'est intéressant parce que c'est la photo de la commune.
Allô.
Alors Christian, il est au bout du monde. Christian Leduc, ancien exploitant agricole, militant de la Confédération paysanne et puis président d'association qui travaille sur le développement de l'agriculture, champ des partages, co-gérant de la SIC d'Alou. Je me suis installé ici l'année de la création de la Confédération paysanne, de 1987. J'étais producteur de lait de vache ici pendant 30 ans. Et là, j'ai pris ma retraite depuis un an. 30 ans d'engagement au niveau de l'agriculture paysanne. À l'époque, je me suis installé sur la commune, il y avait à peu près une trentaine de troupeaux de vaches laitières. Et on mesure ça 30 ans après. Voilà, il reste 23 exploitations, il reste 5 troupeaux laitiers. Donc la commune s'est engagée dès il y a 3 ans dans un travail au niveau régional, enfin, ancienne région qui nous concerne, c'est la région Poitou-Charentes, pour travailler à la création d'une couveuse. Comme il y a dans l'artisanat, dans toutes les structures, une couveuse qui permette à des jeunes d'avoir un temps où ils essaient quelque chose, ils essaient de s'intégrer au monde agricole, ils essaient de développer une production, celle qu'ils ont choisie, ils essaient de monter un réseau de commercialisation, et ceci sans risque, puisqu'ils sont dans une couveuse, la structure amène l'outil de travail, et eux amènent le travail. Voilà, pendant de 1 à 3 ans, et par la suite, continuer ce travail-là. Si ces jeunes ont choisi, au bout d'un an, deux ans, ils disent, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire telle production, j'ai envie de m'installer, on travaille à leur trouver un siège social, une exploitation libre ou un terrain, ou la continuité de l'espace test, pour leur permettre de s'installer.
Reposé dans le métro, hein. Ça y est, vous avez été délogé du ministère, les brebis sont reparties de l'autre côté en camion, et c'est puis on est repoussé dans le métro par quelques compagnies de CRS. Donc il y a quand même beaucoup d'initiatives comme celle d'Alou, où on essaye de mettre en place des politiques agricoles locales qui permettent la réinstallation, l'installation, etc.
Tu vois, le problème c'est qu'au niveau des politiques publiques en haut, là, national, ça coince. Alors nous, on y bosse, hein, en tant que syndicat, c'est là, on est sur le ministère régulièrement et on essaie de porter des trucs. Du coup, il y a des communes qui prennent des initiatives, du coup, communales ou intercommunales. Mais en fait, les communes, elles bossent là-dessus, mais elles pallient au fait que les politiques publiques nationales n'incitent pas et ne...
Je suis un galonnier, compagnie de sécurité.
Ah, le peuple corse. Même de Corse, vous voyez la guerre. Et là, il y avait quand même une représentation de tous les territoires. Hein. Il y avait toute la France qui était là. C'est l'Est, la Bretagne, le Sud-Est, Sud-Ouest.
Il y a des SPL dans tous les territoires.
Ouais.
Surface pastorale ligneuse.
Ouais.
Ça fait vivre plein de paysans. Et on a aussi par chez moi dans les Vosges, hein, du Genêt, là, comme ce qu'on avait amené tout à l'heure.
Tout le monde descend.
Alors, la délégation de la Confédération paysanne a été reçue le lendemain, mais c'est pas gagné et la mobilisation continue, notamment en région la semaine prochaine. Merci aux étudiants du Créadoc pour ces quelques éléments de la cartographie sonore d'Alou.
C'était comme un bruit qui court. Abonnez-vous au podcast et retrouvez toutes les infos sur le site franceinter.fr et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.